Et le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Cela s'est passé dans le milieu feutré de l'art à Paris. 5 personnes sont soupçonnées d'avoir vendu des antiquités pillées dans des pays en guerre. Le trafic porterait sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous y revenons dans un instant.
En plein débat sur les violences policières, 2 policiers ont été relaxés hier à Rennes. Ils étaient mis en cause après un tir de LBD lors d'une manifestation contre la loi travail en 2016. Il n'y a pas assez de preuves, a estimé la justice, vous l'entendrez.
Nous vous expliquerons ensuite l'accord trouvé entre les représentants du personnel de l'enseigne La Halle et la direction. En pleine liquidation judiciaire, des formations longue durée ont été négociées pour les futurs licenciés.
Qui est l'adversaire d'Andrzej Duda en Pologne? La veille de la présidentielle, nous avons suivi son dernier meeting à Varsovie. Il pourrait créer la surprise.
Un suspense électoral aussi en France avant le second tour des municipales. Demain, 5000 communes seront concernées. Votre invité après ce journal, Caroline, sera
le politologue Jérôme Fourquet, qui fait paraître en immersion une enquête sur une société confiné aux éditions du Seuil, un ouvrage dans lequel l'auteur et ses collègues, l'auteur de l'archipel français et ses collègues dans ce livre-là, tentent d'analyser les attentes des Français à la sortie du confinement, les fractures ravivées ou atténuées par cette séquence inédite. Nous verrons tout cela avec lui.
Et ce sera à 8h15. Avant cela, ce retentissant coup de filet qui a donc eu lieu cette semaine dans le monde des antiquités. 5 personnalités respectées du milieu à Paris ont été arrêtées cette semaine, soupçonnées d'avoir participé à un vaste réseau de trafic d'œuvres d'art provenant de pays en guerre, les revendant notamment illégalement à des particuliers, mais aussi à des institutions comme le Louvre d'Abu Dhabi. Hier soir, nous apprenions que 2 de ces personnes arrêtées ont été mises en examen, un expert archéologique notamment. Il risque 10 ans de prison, car le trafic est vaste et visiblement bien organisé au Marwaman.
C'est une affaire qui fait beaucoup de bruit dans le milieu discret de l'art, en raison du profil des personnes arrêtées. Parmi les suspects, on trouve notamment le patron de la prestigieuse maison, Pierre Berger, Jérémy Chitecat, chercheur au CNRS et archéologue.
Les personnes qui ont été arrêtées sont effectivement des noms remarquables, ce sont des poids lourds dans leur domaine respectif.
Des personnes ayant pignon sur rue, soupçonnées d'avoir maquillé l'origine et l'histoire de ces œuvres d'art.
Il y a eu un travail de maquillage, c'est assez évident parce qu'on a vu depuis maintenant 2011 des catalogues de vente de ces maisons de vente qui sont sortis et qui nous montraient des pièces qui sont assez inhabituelles.
Et provenant de pays en guerre comme le Yémen, la Libye et surtout la Syrie, massivement pillés.
Les sites qu'on peut voir sur les images satellites sont criblés de puits de pillage. On est ici à une échelle, on va dire, quasi industrielle.
Un trafic qui représente des centaines de pièces et qui aurait généré plusieurs dizaines de millions d'euros.
Alors évidemment, en début de chaîne, sont achetés à des prix faibles. Hein. Or, quand on les retrouve en bout de chaîne dans les catalogues de vente, sont revendus pour des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mis bout à bout, ces centaines de pièces, on est effectivement dans l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Et selon l'UNESCO, ces arrestations démontrent l'efficacité grandissante des politiques mises en place ces dernières années pour lutter contre le trafic de biens culturels.
C'était Omar Waman pour France Culture. Plus de 200 policiers se sont réunis hier soir à Paris devant le Bataclan, lieu symbolique des attentats du 13 novembre 2015. Ils protestaient encore contre les accusations de violence et de racisme à l'encontre de leur profession. Et c'est dans ce contexte qu'un non-lieu a été prononcé hier à Rennes contre 2 policiers. Ils étaient mis en cause après un tir de LBD en 2016. Un étudiant y a perdu un œil. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait réclamé en janvier dernier des poursuites disciplinaires à l'encontre de ces 2 policiers, soulignant qu'ils n'avaient pas rendu compte de manière précise des circonstances dans lesquelles ils ont fait usage de leur arme. Et justement, c'est le manque de preuves qui les a disculpés. Compte rendu d'audience avec Céline Guettaz.
Après 4 ans d'instruction, Jean-François Martin ne peut se résoudre à cette réponse du juge d'instruction. Le 28 avril 2016, l'étudiant en géographie est au milieu d'un groupe de manifestants sur un quai de la Vilaine quand il est touché au visage par un tir de LBD provenant de l'autre rive à plus de 30 mètres. Le jeune homme souffre alors de multiples fractures et il perd la vue de son œil gauche. 2 policiers sont alors suspectés, mais au cours de l'instruction, ils nient l'un et l'autre être l'auteur du tir. Le juge conclut aujourd'hui, sans certitude sur l'auteur, c'est un non-lieu qui doit être prononcé. Décision difficile à comprendre pour Jean-François Martin.
Moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cette réponse. On n'arrive pas à identifier le tireur. Il y avait plein de policiers. Il y en a 2 qui ont des armes, 2 qui ont des LBD-40 et personne ne les regarde tirer. Personne ne sait qui a tiré. Les témoignages, je sais, en gros, moi, je sais pas et moi, je suis pas sûr, quoi. Enfin, moi, je trouve ça un peu gros, non ?
Jean-François Martin a donc fait appel. Son avocat est désormais maître Arié Halimi du barreau de Paris. L'avocat qui estime, je cite, qu'il incombait aux policiers soit de se dénoncer, soit de témoigner l'un contre l'autre. Il ajoute qu'il est regrettable que le juge d'instruction ait prêté la main à la loi du silence. Fin de citation.
Merci Céline Guettas de France Bleu Armorique pour France Culture. Impensable et honteux, les syndicats de Sanofi n'acceptent pas le milliers de suppressions de postes annoncées en France, alors que le groupe pharmaceutique a vu ses ventes dopées au premier trimestre cette année par la crise sanitaire. La direction de Sanofi, elle, parle de réorganisation et de départ exclusivement volontaire. En revanche, pour les salariés des magasins La Halle, quitter l'entreprise ne se fera pas volontairement, loin de là. L'enseigne de vêtements à bas prix du groupe Vivarte est en liquidation judiciaire. 5000 emplois sont en jeu. Mais il n'y aura pas de grève. C'est une information France Culture ce matin. Des négociations éclairs ont permis d'éviter un nouveau mouvement social. Négociations toutefois contraintes et forcées, Anne Lorchouin.
Des négociations en 15 jours, quand un plan de sauvegarde de l'emploi se négocie habituellement en 4 mois. L'intersyndicale de La Halle dit avoir négocié le pistolet sur la tempe pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Car dans le cas de procédure judiciaire, les négociations ne se font pas avec la direction, mais avec l'administrateur judiciaire chargé du dossier. Et en général, les mesures financières de ces PSE ne sont pas très généreuses. Les syndicats ont tout de même réussi à faire financer des formations longue durée à hauteur de 12 000 euros pour chaque licence. C'était important pour eux, sachant que beaucoup des employés de La Halle ne sont pas très qualifiés. C'est la trésorerie des magasins qui continue de vendre qui financera ces formations. Mais la casse sociale ne sera pas évitée. Dans le meilleur des cas, si les deux offres des deux groupes Beaumanoir et Chaussea sont choisies lundi par la justice, plus de 2000 employés se verront licenciés.
Voilà donc une situation qui s'ajoute au climat tendu de ce début de crise économique, crise qui touche la planète entière. Cette semaine, le Fonds monétaire international, le FMI, s'inquiétait de la déconnexion toujours plus grande des marchés financiers avec l'économie réelle. Marie Viennot y revient aujourd'hui dans sa bulle économique. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dès maintenant sur notre site franceculture.fr ainsi qu'en podcast. Et preuve que tout est lié, que la situation dans un pays a des conséquences dans un autre. Nous partons ce matin en Dordogne, département soutenu habituellement par le tourisme britannique grâce à des retombées de 120 à 130 millions d'euros par an. 14 000 ressortissants britanniques y sont déjà installés, mais pour le moment, une quarantaine de 14 jours est imposée entre la France et le Royaume-Uni. Cela complique considérablement les allers-retours et cela inquiète les professionnels périgourdins, Annabelle Grelier.
Ce devait être sa meilleure saison depuis son installation il y a 4 ans. L'hôtel d'Adrian Finch affichait quasiment complet pour l'été avec déjà 6 mariages britanniques réservés.
Malheureusement, ils ont tous été annulés. 18 000 euros d'envolée. Bien sûr, ils ont annulé à cause du coronavirus. Même s'ils voyagent, ils devront passer par une quarantaine de 14 jours pour entrer au Royaume-Uni. Ça n'avait pas de sens de venir ici dans ces conditions.
À défaut de touristes britanniques, Adrian Finch espère se rattraper quelque peu avec les touristes français cet été.
Pour être honnête, le gouvernement français a été généreux avec la mise en place du fonds de solidarité. Je trouve que la France a exceptionnellement bien géré cette crise du Covid-19. Je suis fier d'être ici et je suis bien plus content d'être en France en ce moment qu'au Royaume-Uni.
Bien sûr, il y a la crainte d'une deuxième vague qui pourrait réellement mettre en péril les affaires des Britanniques installés en Périgord ou contraindre les retraités de rentrer près de leur famille. Même si aujourd'hui, ils restent nombreux à toujours vouloir s'y installer, nous assure Roger Egg, président de l'association qui représente les intérêt des Britanniques en Dordogne.
En Dordogne, oui, ils se sentent bien mieux ici et ils le disent maintenant. Hein. Grâce à Dieu qu'on a choisi de venir vivre en Dordogne. Hein. Et quand on regarde les Britanniques, regarde ce qui se passe dans leur pays, ça fait tout drôle. Hein. Je pense que ça, on l'apprécie et c'est peut-être aussi pour ça que la demande pour venir s'installer en Dordogne n'a pas perdu son rythme, ou bien au contraire, il augmente.
Plus de 14 000 ressortissants britanniques vivent aujourd'hui dans le département que rien ne semble décourager.
On a eu Brexit, on a eu le virus et on va avoir Brexit à nouveau. On attend maintenant que le gouvernement français nous donne une date exacte pour la réouverture pour la demande de carte de séjour.
Avec des formalités administratives aussi effrayantes qu'un virus, selon l'humour britannique, Made in Périgord.
Formalité compliquée également de l'autre côté de la Manche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait s'exprimer à ce sujet la semaine prochaine. Et sachez que pour le reste du continent, les pays membres de l'Union européenne ont jusqu'à ce soir pour proposer une liste de pays jugés sûrs où il sera possible de voyager en juillet. A priori, les États-Unis, le Brésil et la Russie ne devraient pas y figurer.
Il est 8h09 sur France Culture, suite du journal. Une quinzaine de médecins cubains vont apporter leur soutien à la Martinique.
Oui, c'est une première pour la France. Les Martiniquais vont bénéficier effectivement de ce renfort cubain pour combler les déserts médicaux, mais aussi et surtout pour lutter contre le nouveau coronavirus qui est loin d'avoir disparu dans les Antilles et sur le continent américain. Domitille Piron, notre correspondante à Cuba, a suivi le départ de ces médecins de la Havane.
Le docteur Viviano Cobas Mesa porte fièrement sa blouse blanche brodée de l'étoile rouge et de Cuba en lettres bleues. Il porte un masque également obligatoire depuis 3 mois sur l'île. Ce généraliste fait partie des 15 médecins en partance pour la Martinique, avec des spécialistes en néphrologie, hématologie et radiologie, des spécialités en tension au CHU de la Martinique et à la clinique Saint-Paul où ils opéreront. Le docteur Cobas Mesa avait lutté contre Ebola en Sierra Leone. Aujourd'hui, c'est contre le coronavirus et en France qu'il apporte son aide solidaire, comme il dit.
La France, comme n'importe quel autre pays, a besoin d'une attention médicale et surtout d'une attention médicale désintéressée. Nous, la seule idée qui nous motive, c'est de sauver des vies. C'est ce qui est le plus important pour un médecin cubain.
Comme le veut la tradition, le départ se fait dans une ambiance presque militaire avec hymne national, applaudissements et discours du directeur de l'unité de coopération médicale, Jorge Juan Delgado.
Vous partez et nous vous faisons confiance pour accomplir cette mission de haut niveau et porter fièrement les couleurs de Cuba et de son drapeau.
Viva Fidel. Tous sont très fiers de partir pour la Martinique, île voisine et sœur de Cuba. Mais personne ne dit rien sur les conditions salariales ou le montant de cette coopération médicale pour la France. Personne n'ose non plus s'exprimer en français, malgré les cours intensifs avant leur départ.
Domitille Piron depuis la Havane ce matin pour France Culture. C'est une présidentielle très disputée dans un pays où les élections ne l'étaient pas autant jusque-là. Demain, le président conservateur polonais Andrzej Duda va se représenter face aux électeurs pour renouveler son mandat, mais il a perdu beaucoup de points au profit d'un opposant libéral, actuel maire de Varsovie. Ce dernier pourrait donc créer la surprise lors du premier tour qui a lieu demain. Ludovic Piétonu a suivi son dernier rassemblement de campagne hier soir dans la capitale polonaise.
Son nom, Rafał Czarkowski, il est le visage qui redonne de l'espoir à l'opposition. C'est lui qui a repris le flambeau après le report de dernière minute de ce scrutin qui devait avoir lieu le 10 mai, en pleine pandémie. En seulement quelques semaines, sa popularité a explosé. C'est sur la grande place devant les remparts rouges de la vieille ville qu'il a choisi de délivrer son dernier discours de campagne. Dans cette foule plutôt jeune, il y a Yola qui scande le prénom du candidat.
Il est un espoir pour vous ?
Oui, un très grand espoir. C'est comme Kennedy, Macron, ouais un peu, parce qu'il est libéral. Je veux que mes enfants soient européens.
Là. Qu'est-ce qu'ils disent là ?
On a assez.
Assez d'Andrzej Duda, le président sortant, qui dit tout haut qu'il n'aime pas l'Europe, mais qui aime bien, selon ses détracteurs, les subventions européennes.
Avec Duda, c'est 5 ans de plus. J'ai pas le temps, moi. Mes enfants n'ont pas le temps.
Les Polonais sont imprévisibles, dit Yola. Cette campagne électorale est clairement la plus disputée de ces dernières années. Le second tour, le 12 juillet, paraît inévitable et totalement incertain.
Et en parlant de second tour, tiens, celui des municipales en France aura lieu demain. Il concerne 13% exactement des communes françaises, mais 38% de la population. Ce sera le premier test électoral depuis la crise sanitaire de la Covid-19, 3 mois après un premier tour marqué par l'abstention. Et ce dimanche, cela risque d'être sensiblement la même chose. Rosalie Lafarge.
Au premier tour, moins d'un électeur sur deux a voté, 44% à peine. Difficile de prévoir les chiffres de demain, mais selon les analystes, il est un peu illusoire de croire à un rebond. D'après l'IFOP, par exemple, seuls 38% des électeurs envisagent de se déplacer et plusieurs raisons l'expliquent. Les craintes en matière de santé, évidemment, la date, le 28 juin, veille des vacances, et puis la déconnexion entre les deux tours. Ça aussi, c'est un facteur de risque.
Une élection majoritaire à deux tours, c'est un rite avec une unité d'enjeu, une unité de lieu et une unité d'acteur. Cette dynamique a été rompue.
Le politologue Stéphane Rosès.
Un vote n'est pas une procédure administrative, technocratique. C'est un investissement symbolique qui tient justement à la dynamique même de ce scrutin majoritaire à deux tours qui procède de notre dispute commune qui existe depuis des siècles. C'est-à-dire qu'au premier tour, on vote pour la liste qui a sa préférence et dans la même dynamique, à partir des mêmes enjeux et des mêmes acteurs, on vote tout de suite après dans la foulée pour le second tour dans du commun.
Cette fois, on vote 15 semaines plus tard et au terme d'une campagne d'entre-deux tours pour le moins particulière, sans poignée de main, sans grand meeting. Pour tenter de limiter l'abstention, le vote par procuration a été simplifié. Chaque électeur pourra par exemple avoir deux procurations au lieu d'une d'habitude.
Et je précise par ailleurs que le second tour a été reporté en Guyane où le nouveau coronavirus circule toujours activement. Les orages sont attendus, se sont atténués plutôt au fil de la nuit et ce samedi s'annonce encore un peu pluvieux avec des averses qui arrivent par l'ouest, des températures en baisse. 17 degrés ce matin à Brest, 22 à Paris, 24 à Strasbourg, 27 à Lyon, Marseille et Ajaccio.
Même des températures estivales. Ça va. À tout à l'heure, Clara Le Coq-Réal.